Vous écoutez On lit pour vous.
La fin d'une époque dans la mode gay. Andrew Christian fait ses adieux, un texte de Logan Cartier, paru le 4 juillet 2025 dans Fugue. Le célèbre designer a annoncé prendre cette année sa retraite après plus de 2 décennies à habiller la communauté 2SLGBTQI+. C'est une marque emblématique, vendue dans de nombreux commerces gays et même mise à l'honneur lors d'un mini-défi dans RuPaul's Drag Race. Après des années à façonner le style de la communauté, Andrew Christian tire sa révérence. Après plus de 25 ans, mes mains vont bientôt déposer l'aiguille qui m'a guidé dans cette vocation, a-t-il déclaré récemment par voie de communiqué. Fondée en 1997, sa marque s'apprête à vivre son dernier chapitre avec la collection automne-hiver intitulée Bespoke, prévue pour octobre. Elle marquera son ultime message aux fans. Bespoke sera ma dernière lettre d'amour. Elle rend hommage à cet échange sacré et intime entre le designer et celui qui porte le vêtement. Chaque ourlet, chaque couture portera la mémoire historique, la joie de créer et la beauté douce amère de cet adieu. Reconnu pour ses sous-vêtements au nom bien en vue sur la bande élastique, souvent exhibé au-dessus des pantalons et shorts de ses clients, Andrew Christian a fait de sa marque à la fois un projet passionné et un moyen vital de survie. Dans sa déclaration, il évoque son enfance difficile dans un logement social où il a subi insultes racistes et homophobes. « J'ai commencé ce parcours avec les blessures encore fraîches de mon enfance », confie-t-il. À 18 ans, il fait ses valises, quitte la maison pour Los Angeles avec, selon les dires, 500 $ en poche et un carnet de croquis. Il a déjà raconté avoir vécu dans un garage transformé, effrayé et seul à son arrivée. « Mon carnet était mon seul compagnon, mon armure contre la solitude », partage-t-il. La mode est devenue son refuge, une affirmation de son existence gay. Chaque point de couture était un battement de cœur, chaque vêtement une parcelle de mon histoire, mon propre coming out. C'est ainsi qu'il a bâti un véritable empire. Ses produits ont fait le tour du monde, autant dans les boutiques que sur les passerelles. Il a présenté au monde ses « Trophy Boys », des mannequins souvent issus du porno, et même Cher a porté ses créations dans le vidéoclip du 7e Heaven remix de sa chanson « Take it like a man ». Dans ses adieux, Christian a adressé un message d'encouragement aux futures générations de créateurs. Aux jeunes rêveurs queer qui serrent leurs croquis dans les coins de pièces qui n'ont pas été conçues pour vous. « Je vous vois », a-t-il écrit. « Vos mains tremblent peut-être aujourd'hui, mais elles façonneront un jour des mondes entiers. Prenez la terreur et l'espoir que nous portons toutes dans notre jeunesse et cousez-les en quelque chose de bouleversant. » Les raisons derrière cette retraite annoncée. Dans une entrevue accordée à QWERTY, Andrew Christian a révélé avoir tenté à plusieurs reprises de vendre son entreprise, mais s'être heurté à une concurrence féroce de la part des géants de la mode rapide en ligne comme Temu, qui copiait ses modèles moins de 2 semaines après leur lancement. La vérité, c'est que le paysage de la mode a complètement changé. On observe un changement évident dans les comportements d'achat, surtout chez les jeunes générations qui se tournent vers des plateformes de fast fashion comme Shein et Temu, où tu peux acheter des sous-vêtements à 3 $, a-t-il expliqué à QWERTY. Mais la compétition n'était pas le seul frein à la vente. Selon lui, le climat politique actuel à l'égard de la communauté LGBTQIA+, décourage de plus en plus les grandes entreprises de s'associer à des marques queer, voire à la distribuer. J'ai contacté toutes les grandes compagnies de vêtements pour leur proposer d'acquérir la marque Andrew Christian. Malheureusement, aucune n'a manifesté d'intérêt, a-t-il confié. Il y a clairement aujourd'hui une réticence associée à des entreprises centrées sur les personnes LGBTQ+, une réticence qui n'existait tout simplement pas il y a quelques années. Il a lancé un avertissement et un appel à la solidarité au sein de la communauté. Si la communauté LGBTQ+ ne soutient pas les marques gays, les bars gays et les entreprises queer en général, il n'en restera plus dans une décennie. On est à un moment critique où notre propre communauté doit faire des choix conscients sur la manière dont elle dépense son argent, sinon on perdra les lieux et les marques qui nous ont soutenus pendant des décennies. Même s'il y a une tristesse bien réelle à voir disparaître une marque emblématique, Andrew Christian insiste sur l'importance de la visibilité qu'il a su créer. Grâce à ses campagnes percutantes et à ses mannequins, sa marque s'est toujours affichée sans complexe, permettant à des gens du monde entier de se sentir vus. La marque Andrew Christian leur a donné un sentiment d'appartenance à la communauté LGBTQ+, un lien qui était complètement absent de leur vie, conclut-il. Réaction. La communauté queer réagit abondamment à cette annonce sur les réseaux sociaux. Si certains et certaines disent que ce n'est pas la nouvelle qu'ils, qui elles, voulaient entendre pendant le mois de la fierté, plusieurs le félicitent pour sa retraite, le remercient les avoir aidés à se sentir sexés ou partagent comment il les a inspirés à lancer leur propre ligne de sous-vêtements. Un de ses célèbres Trophy Boys, Jermaine Largett, a écrit sur Instagram « Merci pour ton impact dans notre communauté et la visibilité que tu as offerte, toujours plus progressiste et inclusive au fil de ta carrière. Merci de m'avoir offert un rêve vers lequel tendre. Merci de m'avoir permis d'être un de tes Trophy Boys. » Même si Christian raccroche le jockstrap et le maillot échancré, son héritage se fera sans doute sentir encore à travers les nombreuses designers queer des nouvelles générations qu'il a inspirées. C'était la fin d'une époque dans la mode gay. Andrew Christian fait ses adieux, un texte de Logan Cartier, paru le 4 juillet 2025 dans Fugue.
Sana Marin, celle qui a tenu tête à Vladimir Poutine, une chronique de Jocelyne Richer, parue le 10 juillet 2026 dans la Gazette des Femmes. Il existe des moments charnières dans la vie des gens, comme dans celle des peuples. Sana Marin a su que le destin de son pays venait de basculer, le 24 février 2022, le jour où le dirigeant russe Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Je sentais que l'état d'esprit de la nation avait changé en une nuit, relate l'ex-première ministre de la Finlande de 2019 à 2023 dans ses mémoires publiées en 2025. Ce livre témoigne du parcours politique exceptionnel de cette femme que rien ne prédisposait à devenir une figure de premier plan sur la scène internationale. Petit pays scandinave de 5 millions d'habitants, indépendant depuis 1917, la Finlande partage une frontière de pas moins de 1300 kilomètres avec la Russie. Elle affichait farouchement jusqu'alors une neutralité absolue sur le plan de sa défense, histoire de ne pas indisposer l'ogre d'à côté. Mais dès que Poutine a franchi le Rubicon, cette position devenait intenable aux yeux de Sana Marin. Exit l'ère du non-alignement. Pour protéger son pays contre une éventuelle invasion armée de Moscou, elle se devait d'agir, et vite, en changeant de cap à 180 degrés. Son plan, risqué et audacieux, faire adhérer la Finlande à l'OTAN. Ce serait là le plus grand défi de son règne. Défi relevé avec succès et en un temps record. La Finlande est devenue membre de l'OTAN en 2023 au terme de l'intégration la plus rapide de toute l'histoire de l'Alliance militaire transatlantique. Et quelle gifle au visage de Poutine. Sana Marin, venait de montrer au monde entier qu'elle pouvait tenir tête à son redoutable voisin aux visées expansionnistes, ouvertement hostile à toute éventuelle présence accrue de l'OTAN aux portes de la Russie. L'exploit est d'autant plus remarquable que les obstacles étaient nombreux et la commande énorme. Convaincre tous les dirigeants de la trentaine de pays membres de l'organisation de la pertinence de la candidature finlandaise et de l'urgence d'agir. Devant eux, elle devait à tout prix présenter un front uni, donc s'assurer du soutien de ses collègues du gouvernement, des dirigeants de son parti et des autres partis formant la coalition. Et bien sûr, de la population. En 2019, seulement 20% des Finlandais finlandaises appuyaient l'idée d'adhérer à l'Alliance. Une star au pouvoir. Son succès à l'international fait foi d'un leadership peu commun, s'appuyant sur une vision, des valeurs et un caractère bien trempé, des caractéristiques utiles à quiconque cherche à faire sa marque en politique. D'autant plus si on est une femme. L'univers dans lequel évolue Sana Marin est très féminin. Issue d'un milieu modeste, elle grandit auprès de sa mère et de la compagne de cette dernière. Députée, elle devient mère d'une petite fille. Première ministre, elle est à la tête d'un gouvernement de coalition formé de 5 partis, tous dirigés par une femme. Durant son unique mandat, l'égalité des sexes aura été une priorité absolue, déclinée en diverses réformes, notamment en matière de congés parentaux, d'accès à l'avortement et de lutte contre les violences sexuelles. Son ascension est fulgurante. Elle est élue chef du gouvernement finlandais à 34 ans. Dans le monde, aucun autre premier ministre n'est alors plus jeune qu'elle. Et ce n'est pas arrivé par hasard. Sana Marin est ambitieuse et ne le cache pas. De gauche, féministe, férue de justice sociale, elle ne craint pas de se définir comme une femme de pouvoir, bien consciente cependant que cette étiquette sied mieux aux hommes qu'aux femmes. On incite souvent les femmes à dissimuler leurs ambitions, à se montrer discrètes ou modestes quant à leurs aspirations, déplore-t-elle, alors que le pouvoir est le carburant de la machine politique. Je voulais agir, changer les choses, et pour cela il me fallait ce que les hommes n'ont aucun problème à admettre, il me fallait le pouvoir. Jeune, photogénique, amie des réseaux sociaux, la voilà en couverture des magazines. Mais la coqueluche des médias ne met pas de temps à découvrir le côté moins glamour du statut de star politique quand on est une femme. On disséquait mon apparence et mon comportement tout en se demandant si j'étais faite pour occuper des responsabilités publiques. Dans ce pays, considéré comme l'un des plus féministes et égalitaires au monde, le droit de vote et d'éligibilité a été accordé aux femmes en 1906, une première mondiale, on déchante en constatant que, là comme ailleurs, les femmes font face au double standard qui ne disparaît jamais, au sexisme et à la misogynie qui s'insinue jusqu'au sommet de la pyramide du pouvoir. Comment rester de marbre en lisant qu'elle a perdu le compte des innombrables menaces de viol reçues durant son règne? Scandale. On tente de forcer les femmes politiques à entrer dans le moule du type de dirigeant traditionnel auquel on s'attend, écrit-elle. Celles qui résistent, comme elle a toujours fait, risquent d'en payer le prix. Comme la fois, par exemple, où elle a décidé de faire la fête avec quelques amis. La soirée tourne au scandale politique quand l'une des personnes présentes publie sur Instagram une courte vidéo la montrant en train de se trémousser sur des rythmes endiablés. Le dirigeant d'un parti d'extrême droite populiste soutient qu'il faut être drogué pour se comporter de la sorte et décrète qu'un test de dépistage serait bienvenu. Flairant l'histoire juteuse, des médias emboîtent le pas. Pourquoi ne se soumet-elle pas à un test? A-t-elle quelque chose à cacher? Tout en affirmant n'avoir jamais consommé de drogue, elle se voit donc contrainte de subir une humiliante série de tests de dépistage, tous négatifs. Sana Marin ne se laisse pas intimider par les déconvenues de ce genre et choisit de solliciter un deuxième mandat en 2023. Mais son parti est défait de justesse par un parti de droite, comme dans tant d'autres pays, confirmant une tendance mondiale peu encline à rassurer les femmes. Nous assistons à une grave régression des droits des femmes partout dans le monde, déplore l'ancienne politicienne qui s'est jointe depuis à l'Institut pour le changement mondial à l'invitation de son fondateur, l'ex-premier ministre britannique Tony Blair. Découragée? Non, pas son genre. En ces temps difficiles, elle préfère miser sur l'action, quelle qu'elle soit, pour inverser la tendance. Nous pouvons tous faire la différence en accomplissant chacun sa modeste part, car c'est dans les petites choses que se trouve l'espoir, celui d'un monde meilleur. Sana Marin, l'espoir en acte, le courage de diriger, Flammarion 2025, 312 pages. C'était Sana Marin, celle qui a tenu tête à Vladimir Poutine, une chronique de Jocelyne Richer, parue le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes.
Face aux victimes, l'Église garderait-elle le contrôle? Un texte de Loïc Bizol, paru le 16 juin 2026, dans Présence, Information religieuse. En recevant 6 victimes à la Nonciature de Madrid le 8 juin, Léon XIV a promis vérité, justice et réparation. Mais la composition de cette rencontre et les protestations qu'elle a suscitées déplacent le débat vers un terrain plus fondamental, celui de l'autorité que l'Église conserve pour définir qui est une victime et comment on lui répond. Au troisième jour de sa visite en Espagne, Léon XIV a écouté pendant près d'une heure 6 personnes ayant subi des violences commises par des membres du clergé. Le Vatican rapporte qu'il leur a assuré son engagement à faire de leur proposition le fondement d'efforts supplémentaires pour que l'Église devienne un lieu sûr et spirituellement saint, où les blessures trouvent réconfort et guérison. Quelques heures plus tôt, devant les évêques espagnols, il avait qualifié les abus de fléau et réclamé vérité, justice et réparation. Le vocabulaire est ferme. Le geste, désormais attendu de tout pape en déplacement, paraît s'inscrire dans une trajectoire de transparence. Et pourtant, la rencontre a été contestée avant même d'avoir lieu. Plusieurs des principales associations de victimes ont déploré de ne pas y avoir été conviées et ont manifesté devant l'Annonciature. Juan Cuatrecasas, porte-parole d'Infancia Robada, Enfance volée, résume le grief. Seuls auraient été reçus des personnes accompagnées par des programmes mis sur pied par l'Église elle-même. L'exclusion des groupes représentatifs peut susciter une perception erronée, en laissant croire qu'il existe un consensus ou une satisfaction générale, avertit-il. Vatican News confirme indirectement le point. Les 6 personnes étaient accompagnées d'ecclésiastiques engagés dans un travail de proximité auprès des victimes. qui a le droit de nommer la blessure? Il serait facile de réduire l'épisode à une maladresse protocolaire. Ce serait manquer ce qu'il révèle. La ligne de partage ne sépare pas ici les bonnes intentions des mauvaises. Elle sépare deux manières de qualifier le problème. Les termes employés par le Vatican, lieu spirituellement saint, réconfort, guérison, inscrivent la rencontre dans un registre pastoral et thérapeutique. Les associations exclues, elles, parlent de silence imposé, de représentativité, de justice, un registre juridique et politique. En sélectionnant des interlocuteurs déjà pris en charge par ses propres dispositifs, l'institution ne choisit pas seulement des personnes, elle choisit le registre dans lequel la conversation aura lieu. Elle conserve, autrement dit, la maîtrise de ce qui sera reconnu comme une blessure et de ce qui constitue une réponse acceptable. Ce mécanisme n'a rien d'anecdotique. Il touche à la question que la crise des abus pose depuis 20 ans à l'Église catholique, celle de savoir qui détient l'autorité pour traiter un tort commis en son sein. Une réponse pastorale relève de l'institution et s'administre à l'interne. Une réponse judiciaire suppose au contraire de céder ce monopole à des instances civiles et à des collectifs de victimes autonomes qui n'ont pas à passer par l'accompagnement ecclésial pour être entendus. Les associations écartées ne contestent pas d'abord d'avoir été oubliées, elles contestent que l'Église fixe seule les termes de l'échange. Le texte et la mise en scène. Cette tension est d'autant plus frappante que Léon XIV dispose désormais d'un cadre doctrinal qui pointe dans la direction inverse. Sa première encyclique, Magnifica Humanitas, promulguée le 25 mai, élargit considérablement la notion d'abus. Elle range côte à côte les violences spirituelles, économiques, institutionnelles, sexuelles, de pouvoir et de conscience, et fait de l'écoute des victimes une part intégrante d'un chemin de justice comprenant la reconnaissance du préjudice, la juste réparation et la prévention. Surtout, le texte appelle à assainir les relations et les structures ecclésiales qui engendrent inégalités, opacité et abus de pouvoir, et présente cette exigence comme un examen de conscience pour l'Église. Le déplacement est notable. L'abus n'y est plus pensé comme la faute isolée de quelques individus, mais comme un effet de structure et de rapport de domination. Une telle lecture, si elle était suivie jusqu'au bout, conduirait logiquement à desserrer le contrôle de l'institution sur le traitement des plaintes. C'est précisément ce que la chorégraphie de Madrid ne fait pas. Entre le texte, qui interroge les structures de pouvoir, et la mise en scène, qui les reconduit en triant ses interlocuteurs, l'écart est l'objet même du débat ouvert par cette visite. Une fracture inscrite dans le parcours du pape. Léon XIV n'est pas un arbitre extérieur à cette question. Il en porte personnellement les deux versants. Le réseau américain SNAP, Survivors Network of Those Abused by Priests, qui alimente le site Conclave Watch, a déposé en mars 2025 un signalement au Vatican concernant sa gestion lorsqu'il était évêque de Chiclayo, au Pérou, de plaintes déposées en 2022 par trois femmes contre deux prêtres. Le diocèse soutient qu'il avait reçu les plaignantes, prévenu la police et transmis le dossier à Rome. Les plaignantes affirment au contraire n'avoir jamais été entendues par les enquêteurs ecclésiastiques et que l'affaire civile s'est éteinte par prescription. Le cœur du reproche est juridictionnel. Le défaut de signalement à la justice civile au profit d'un traitement canonique interne. Ses défenseurs rappellent à l'inverse son rôle dans la dissolution du Solidatio de Vida Cristiana, mouvement péruvien au centre d'un immense scandale d'abus. La même biographie réunit ainsi les deux pôles du problème qu'il prétend désormais arbitrer. Le contexte espagnol prolonge cette ambivalence. Le rapport du Défenseur du peuple de 2023 avance l'hypothèse de quelque 200 000 mineurs victimes depuis 1940, ordre de grandeur que l'épiscopat espagnol a rejeté, lui opposant le chiffre de 728 agresseurs recensés depuis 1945. L'accord d'indemnisation signé en mars 2026 entre l'Église et le gouvernement Sanchez marque une avancée réelle. Il repose néanmoins, pour partie, sur un engagement moral. La réparation demeure ainsi largement gouvernée de l'intérieur, consentie plutôt qu'imposée. Une écoute qui gouverne. Il n'y a pas lieu de réduire la rencontre de Madrid à une opération de communication, ni de mettre en doute la sincérité de l'écoute. Le constat est plus exigeant. Écouter peut aussi être une manière de gouverner, convertir une question de responsabilité devant la loi civile et devant des victimes organisées en une question de sollicitude pastorale dont l'institution garde la clé. De ce point de vue, les associations laissées à la porte ne sont pas un raté du dispositif. Elles en sont le bord visible. Elles sont écartées parce qu'elles refusent que l'Église fixe seule les conditions de la parole. La visite espagnole laisse donc ouverte une seule question, mais décisive. Le vocabulaire de Magnifica Humanitas annonce-t-il une institution prête à céder du terrain en reconnaissant aux victimes et à la justice civile une autorité qu'elle ne contrôle pas? Ou demeurera-t-il dans l'Église une écoute soigneusement administrée où l'on entend les blessures à condition d'avoir d'abord choisi qui pouvait les dire? À Madrid, l'Église a parlé de réparation. Elle n'a pas encore répondu à cette question-là. C'était « Face aux victimes, l'Église gardera-t-elle le contrôle? » Un texte de Loïc Bizol, paru le 16 juin 2026, dans Présence, Information religieuse.